Bonjour, bonjour, auditeurs de Radio Galère, les échos de Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga, comme tous les derniers jeudis du mois, sur Galère 88.4 FM ainsi qu'en DAB+. Notre fenêtre ouverte sur le monde reste accessible via le site www.radiogalère.org et vous pouvez également nous suivre en podcast pour nous contacter le 07 49 53 87 44. À l'animation, Saïd. Bonjour Saïd.
Bonjour Monsieur Jean-Marc.
C'est le grand retour. Bon.
Non, c'est une fois par trimestre, ça suffit.
C'est déjà pas mal. Bon, merci. Sans oublier, il y a notre fidèle ami Sidi, qui est le technicien de Radio Galère, qui est toujours avec nous à l'occasion de cette émission des Échos. Nous espérons retrouver notre passage de mémoire, Karima Berich, qui nous manque beaucoup. Nous pensons toujours à elle. Comme à chaque émission des Échos, nous lui dédions aujourd'hui ses paroles d'Idir qui nous a malheureusement quittés. À travers l'image de sa mère, il rend hommage à toutes les mères et à toutes les femmes, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Donc, merci Sidi pour le premier morceau, Idir.
Cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie. Elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait, qu'elle a mis dans une calebasse, vous savez, une espèce de baratte. Et elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Mais vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant emmagasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument. Parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général, dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça allait encore moins dans des sociétés à forte tradition telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues et que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées. J'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord, on a tous une maman et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à forte tradition, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir là plutôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse de celle qui vous a donné la vie. Ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans nos cœurs. Vous pourriez me dire pourquoi, bien sûr. Parce que l'un de vous pourrait me dire, bon, ma maman est avec moi, on vit ensemble, il n'y a pas tellement de soucis. Quelqu'un d'autre me dira, j'ai de ses nouvelles au téléphone, on se tient en contact. Et vous savez, ce n'est pas du tout pour ça. Je vous le demande parce que je suis convaincu que vis-à-vis d'une femme en général et d'une maman en particulier, je crois que nous avons tous tous quelque chose à nous faire pardonner ou à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Rentrez en vous-même, questionnez-vous et vous verrez bien. Laquelle ou lequel d'entre vous n'aura pas vu des larmes perler sur leurs joues, et surtout des larmes pour lesquelles nous avons une responsabilité plus ou moins directe, sans compter tous ces pleurs, toutes ces larmes qu'ils auront versées à notre insu, parce qu'ils n'auront pas voulu nous le montrer, soit par pudeur, soit par crainte de nous heurter, soit pour se dire, ma foi, bon, ces enfants, c'est moi qui les ai faits, si quelqu'un doit se sacrifier, autant que ce soit moi. Franchement, laquelle ou lequel d'entre nous tous aura été pêché dans le tréfonds de leur cœur, le moindre de leurs frissons, la moindre de leur fragilité, et surtout cesser de voir en elles des mamans couveuses ou des mamans allaiteuses qui ne sont là que pour la reproduction, alors qu'elles peuvent aussi avoir de la place pour un cœur contrarié, des amours contrariés, un désir frustré, etc. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais avec votre permission que l'on y associe l'image de ces millions et de ces millions de femmes qui sont restés là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'ont pas la chance de vivre des moments comme ceux de ce soir. Et là aussi, vous pourriez me dire pourquoi? Parce que, comme nous tous, il nous arrive de rêver, puis surtout de courir naïvement après nos rêves. J'imagine que, si ce soir on se mettait à penser à elle, il serait inscrit quelque part en haut dans le ciel de Dieu, qu'un soir de novembre, somme toute banale, dans une petite ville qui s'appelle Puteaux dans la région parisienne. Quelques centaines de personnes étaient là ce soir. Mais cette soirée banale devient exceptionnelle dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes. Il n'y avait ni Marocains, ni Algériens, ni Français, ni Tunisiens, ni autres. Il y avait simplement quelques centaines de cœurs qui étaient là, les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ont de meilleur en émotion, en amour, en tendresse. Et que dans un élan commun, en pensant à elle, bien sûr, j'imagine une boule émotionnelle monter dans le ciel, traverser la mer et puis aller s'éparpiller en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur meurtri. Et c'est à ce moment-là où, cette fois-ci, je suis sûr que ce n'est plus un rêve, on se dira dans un coin de ciel que ce soir-là, dans cette petite ville de Puteaux, ces quelques centaines de gens ont fait quelque chose de magnifique. Sendou.
Et oui, après y dire, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur 88.4, comme je vous le disais en amont, il y en a plus. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'année 2025 est placée sous le signe de l'équité, une équité envisagée comme une étape essentielle vers l'atteinte d'une véritable égalité. Avec Saïd, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités, dont l'un en particulier que certains habitants du Grand Saint-Barthélemy connaissent bien, ou reconnaîtront sans doute, il s'agit de Pierre Lézot, n'est-ce pas Saïd?
Qui ne connaît pas Pierre Lézot?
Anne-Marie peut-être, bonjour Anne-Marie. Anne-Marie Tagawa aussi avec nous, groupe de veille et surtout grande militante sur le Grand Saint-Barthélemy. Bonjour Anne-Marie.
Je suis la sœur de Pierre Lézot.
D'accord. Alors, bonjour Pierre. Nous savons que tu n'es pas indifférent à la situation des peuples victimes du génocide. Et en ce 24 avril 2025, nous commémorons les 110 ans du génocide arménien, une tragédie qui marqua le début d'un long combat pour la reconnaissance de ce crime contre l'humanité, perpétré par l'Empire ottoman et toujours nié par l'État turc actuel. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierrot, mais à l'époque, nous avions eu l'occasion de recevoir dans nos studios un commissaire de police d'origine arménienne. Il était accompagné à ce moment-là de son fils, avocat, engagé de la reconnaissance de ce crime au niveau juridique international. Il me semble, si je ne m'abuse, que leur nom était Krikorian.
Ah oui.
Lors de son intervention, il
et
avait évoqué...
Son fils, avocat.
Oui. Il avait évoqué un autre génocide souvent oublié, celui perpétré au tout début du XXe siècle, c'était le premier selon lui, par les troupes coloniales allemandes contre le peuple Herero en Namibie. Considéré comme le premier génocide du XXe siècle, mais largement occulté dans la mémoire collective. Qu'est-ce que tu en penses, Pierrot? Tu te souviens de cette période-là? Parce qu'il voulait allier un peu toutes les luttes qui ont connu des génocides, et pour nous concernant, c'était surtout les génocides des Amérindiens.
Oui, eh bien moi je vais m'arrêter au génocide qui se déroule en ce moment-là, en voilà. Ce moment, dans la bande de Gaza, et donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. On parlait de nos amis arméniens, hors antenne on parlait de Radio Gazelle, on va saluer aussi notre ami Zaka, que oui. J'ai vu il n'y a pas si longtemps.
Alors justement, faisant lien un peu à ce que tu dis, encore au XXIe siècle, notre peuple est en train de subir une tragédie à grande échelle, celui de Gaza. Au-delà des discours politiques et des actes de résistance, y compris au sein même d'Israël, ce que nous voyons sous nos yeux interroge profondément notre conscience collective. Peut-on rester silencieux face à une telle situation ? Pouvons-nous ignorer ce que certains n'hésitent plus à qualifier de crime contre l'humanité, voire de génocide ? Y compris le pape François, qui vient de nous quitter, que son âme repose en paix. Il avait à plusieurs reprises dans ses homélies dénoncé avec force la situation dramatique vécue par le peuple de Gaza. Homme de paix et de dialogue, il n'a cessé d'appeler à la fin des violences, à la justice pour les populations civiles et au respect de la dignité humaine, quelle que soit l'origine ou la foi. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, donc rappeler qu'y compris le pape était aussi amené à se positionner par rapport à la situation de Gaza et surtout du peuple gazaoui. Parce qu'on parle beaucoup, on rappelle beaucoup malheureusement ce qui s'est passé le 7 octobre, mais au quotidien, on constate que cela n'est pas évoqué, la situation des enfants et du peuple gazaoui aussi. Sachant qu'il y a eu des députés qui ont essayé de se rendre sur Gaza, Ruffin, etc., et qui ont essayé de se déplacer, il y a eu un refus de l'État d'Israël qui puisse débarquer et observer et constater tous les crimes qui sont perpétrés dans le territoire de Gaza. Tu voulais réagir, Saïd ?
Certains ont peut-être été étonnés de voir que le pape parlait beaucoup de Gaza, mais ce qui, enfin, de mon point de vue, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que tous les gens qui ne parlent pas de Gaza, on se demande dans quelle humanité ils vivent.
Où ils sont.
Pierrot, Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour Pierrot.
Oui, bonjour.
Oui, alors veux-tu réagir par rapport à la situation de Gaza ? Parce que c'est le moment ou jamais aussi de savoir un peu, bon, parce que nous dénonçons tous un peu ce crime et ce lourd silence assourdissant, y compris de la façon dont on présente les médias, les informations relatives à Gaza.
Oui, bah c'est difficile d'ajouter encore quelque chose sur ce sujet, mais je crois que le plus grand crime, c'est le silence. Hein, parce que c'est ce silence qui autorise et qui permet que ça se poursuive depuis des mois et que ça continue et que ça s'amplifie. Et s'il n'y avait pas cette immense chape de plomb qui est brisée que par quelques voix, ou en tout cas, quand des gens se mobilisent, ils ont du mal à se faire entendre au-delà des rues, au-delà des... C'est un silence qui est effrayant pour notre humanité.
Anne-Marie, sinon nous allons fermer peut-être cette parenthèse momentanément pour poursuivre et reprendre un peu le thème de l'émission. Et pourquoi la présence de nos invités, que ce soit Pierre ainsi que Youssef, cela relatif au Conseil citoyen. Le Conseil citoyen, lors de leur création, ils étaient perçus, si je ne me trompe, comme une expression concrète de la démocratie participative et de la démocratie de proximité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est ainsi que l'a voulu, le ministre François Lamy à la création de ces conseils citoyens qui devaient s'englober dans un système beaucoup plus large et vaste, c'est-à-dire l'ANRU et les contrats de ville. Mais pour nous, il est tout à fait facile de parler des conseils citoyens, et il faudra m'arrêter si je suis trop long, mais il faut venir à la genèse de ces conseils citoyens. Même à l'image pour Marseille, les conseils citoyens sont nés ici, même pour tout Marseille. Les conseils citoyens sont nés dans le Grand Saint-Barthélemy. Et sont nés, pas très loin d'ici, à l'Agora, au comité Maméga, au centre social des Flamands. Le rapport Mechmash-Baquet, ils étaient venus, je me souviens, l'après-midi à l'Agora, réunir un peu les personnes qui pourraient adhérer à leur point de vue, à la création des conseils citoyens. Et Mechmash Baquet nous avait interrogés. Déjà, nous les avions regardés avec beaucoup de méfiance. Premièrement, parce que c'était des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous expliquer? Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on s'organise, habitants, associations? Alors que nous, nous travaillons déjà dans un collectif qui s'appelait le... qui a succédé à beaucoup d'autres collectifs, nés à la Maison des Familles, à côté, etc. Le collectif des citoyens, des habitants et des associations du Grand Saint-Barthélemy. Un collectif qui fonctionnait du feu de Dieu, qui était reconnu par la préfecture, et nous avions presque dire, bon, je ne sais pas si ça servait à grand-chose quand même, nous avions table ouverte en préfecture où nous étions écoutés. Et ce collectif du Grand Saint-Barthélemy, je disais, c'est de la tradition d'une longue histoire de lutte de ces quartiers, qui remonte, sans remonter trop loin, au groupe que nous formions à la création, ou de ce qu'on nommait ici à la création du Grand Saint-Barthélemy, l'ex-ZUP numéro 1. Donc cette tradition de travail en collectif, de communauté, a toujours existé ici. Et j'allais presque dire, parce que le Grand Saint-Barthélemy, je ne vais pas faire l'affront à nos auditeurs, mais sans doute ils ne connaissent pas, ça va des Flamands, ici à la Busserine, de l'autre côté à la Benosse, à Fontvert, etc. Donc c'est un immense terrain de lutte. Puis il y a eu les conseils citoyens, je vais revenir, mais cette lutte, le Grand Saint-Barthélemy ne s'est jamais départi de tout ça. Je n'en veux pour preuve que le collectif des habitants du Grand Saint-Barthélemy. Voilà ce que je peux dire, donc je répète avec force. Ces conseils citoyens sont nés ici, avec des habitants d'ici, avec des associations d'ici, avec des collectifs d'ici même. Mais il faut en parler quand même. La ville de Marseille, parce que c'était la responsabilité des villes de créer ces conseils citoyens et de piloter les contrats de ville. La ville de Marseille, c'était M. Godin, n'en voulait pas. La ville de Marseille a été une des dernières villes à signer le contrat de ville. C'est-à-dire que l'État avait donné une échéance, je ne me rappelle plus des dates, parce que ça fait déjà 10 ans, 2015. L'État avait fixé une date à la ville de Marseille, et la ville de Marseille n'avait pas créé les conseils citoyens, ne les avait pas structurés, puisque c'était à eux et à la préfecture de piloter et de mettre en place ces conseils citoyens. À 15 jours de la signature du contrat de ville, il n'y avait toujours pas de conseil citoyen.
Justement, qu'est-ce qui gênait le maire de Marseille de l'époque, de droite, dans cette idée de conseil citoyen?
Alors, il me semble que ce n'est pas le fait de droite ou le fait de gauche, ce n'est pas ça mon analyse. Mon analyse, c'est que les élus, sentant que les habitants et les associations allaient presque au même niveau qu'eux pouvoir proposer des projets, ce sont surtout, c'est pas tant Godin, le pauvre, ce sont surtout les élus de la ville de Marseille et puis tous les autres qui ont signé le contrat de ville, la région, j'en parlerai tout à l'heure, et le département, qui ne voulaient pas que les habitants s'asseyent à la même table pour converser d'égal à égal sur ceux qui allaient être la gouvernance des cités. Parce que le rapport Béchage-Baquet, c'est que les premiers experts de la cité, les premiers experts des quartiers, ce sont les personnes qui y vivent et qui y travaillent. Je ne vais pas donner son nom, mais une élue de la ville haut placée, que nous connaissons très bien, en aparté, elle me dit, mais tu te bats sur quoi? Sur la création des conseils citoyens? Elle me dit texto, ces conseils citoyens ne verront jamais le jour. Parce que nous, la seule légitimité, nous l'avons déjà en tant qu'élus. Nous, on tient notre légitimité du suffrage universel, même si c'est à l'image du quartier. Donc on ne voit pas quelqu'un qui viendrait contrarier ou nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est nous qui savons ce qu'il faut faire. Et je ne vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on va parler de l'avenir, les élus ne veulent toujours pas des conseils citoyens, les élus ne veulent toujours pas de pilotage d'un contrat de ville avec les habitants et avec les associations. Alors, à tel point, après on fera une petite parenthèse, que dès le mois de juin, avec Fatima Moustefaoui, avec Karim Abirich, avec certains, nous avions fait une conférence de presse aux Flamands, ici, une conférence de presse en disant que si les conseils citoyens, un, ne sont pas créés, et deux, les conseils citoyens ne signent pas le contrat de ville, eh bien, nous allons traduire la ville devant le tribunal administratif. Ça leur a fait peur, ça leur a pas fait peur, 15 jours après, à la hâte, et c'est pour ça que les conseils citoyens sont devenus ce qu'ils sont, à la hâte, eh bien, les conseils citoyens ont été créés. Mais les conseils citoyens n'ont toujours pas signé le contrat de ville. Donc on dit, ah, ça c'est pas trop grave, on va quand même lancer l'affaire. Mais contrat de ville numéro 2, je sais que les conseils citoyens n'ont toujours pas signé ce contrat de ville. Mais là, on connaît déjà la route. On dira devant le tribunal administratif.
Ah, Marie, tu as connu toute cette période aussi, et peux-tu en dire deux mots?
Moi, par rapport à ce que vient de dire... ce que vient de dire Pierre, ce qui a eu d'intéressant, je trouve, dans cette période, c'est qu'on a fonctionné, depuis la création de la politique de la ville, c'est-à-dire 73, avec quelque chose qui était un peu empirique, qui était travaillé sur le terrain, des expérimentations, des écoutes institutionnelles et politiques plus ou moins importantes. Donc de là est née une période qui a été super. Mais ce qu'il y a eu au moment du rapport Metz-Mach-Baquet, l'année, je ne me rappelle plus.
Oh, c'était un an avant, c'était un an ou deux ans, 2014.
C'était une évaluation de la démarche de la politique de la ville, ce qui avait quand même rarement été fait jusqu'alors. Une vraie évaluation et qui préconise du coup cette question de créer une instance qui soit la représentation citoyenne des habitants sur l'élaboration des politiques publiques. Et du coup, ça devient intéressant parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une intention, mais d'une demande que ce soit formalisé, institutionnalisé. Je me rappelle ce qui avait été beaucoup discuté en off, c'était le fait que ces conseils citoyens devaient donner leur avis sur les projets déposés.
Tout à fait, oui.
Et moi, je trouve qu'un des points forts de la politique de la ville depuis que ça existe, un des points faibles aussi, c'est l'instrumentalisation politique. C'est-à-dire que là où des élus et du coup des institutions et des techniciens utilisent des financements pour instrumentaliser des associations et instrumentaliser aussi des actions et des dynamiques sur les territoires, il y a un conseil citoyen qui, de l'autre côté, peut donner son avis sur un projet et dire ben là oui, là non, là ça correspond à une dynamique intéressante, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans uniquement le souhait, on est dans le cadre légal. Voilà. Et ça, c'est à mon avis un truc très important et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Moi, j'avoue que quand tu es venu, Mohamed, nous parler du Conseil citoyen, j'étais presque convaincu, alors que je fais partie des gens assez au courant, que ça n'existait plus. Tu te rappelles, quand tu as fait l'information en groupe de veille, tout le monde a dit « Ah bon, mais les conseils citoyens, ça existe ?» Voilà. Et ça, c'est un truc où il y a une action collective à mener pour que ce soit non seulement réactivé, mais écrit dans le marbre, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on ne sait pas ce que va devenir la politique de la ville, mais c'est quand même une des données indispensables. Voilà.
Un peu de pédagogie, je pense que pour beaucoup de monde, politique de la ville, c'est pas clair. La ville, c'est pas toute la ville entière.
Mmh. Ouais. Mais tu veux y aller?
Oui,
ou...
oui.
Ouais, vas-y.
La politique de la ville, c'est un grand tout. Je ne sais même pas comment qualifier cette chose-là, mais tu fais très bien de poser la question, parce que nous, on a notre jargon et on y va. La politique de la ville a été créée en fonction des quartiers dits prioritaires, avec certains critères donc liés à de pauvreté, de difficultés au niveau de la santé, de difficultés, bon, toute une série de difficultés pour les gens qui vivent ces quartiers-là. À Marseille, a été identifié, mais ça a été changé ensuite, ça a été un peu modifié, 35 quartiers prioritaire politique de la ville. 35, c'est énorme. Et normalement, à la création de la loi Lamy, de 2014, février 2014, je crois, il devait y avoir un conseil citoyen par quartier prioritaire. C'est-à-dire qu'il aurait dû y avoir, en Marseille, uniquement à Marseille, 35 conseils citoyens. 35. Lorsque je disais que les conseils citoyens sont... Alors, oui, et juste la politique de la ville, l'objectif, c'était de... que les interventions publiques devaient intervenir en substitution du droit commun. Parce qu'il y avait des manques du droit commun. Le droit commun était tout à fait absent. Poste, santé, enfin, je ne vais pas énumérer les difficultés de notre quartier. Donc, il y a une certaine somme d'argent allouée à ces quartiers dits prioritaires politiques de la ville pour pouvoir mener des actions, et j'allais presque dire mettre nos quartiers en rectitude, en régulier avec le reste des quartiers de Marseille. Qu'ont fait les politiques ? Ils se sont servis de cet argent supplémentaire pour gérer les quartiers. Et en disant, presque à la limite, bon, vous avez cet argent politique de la ville, vous débrouillez. Alors qu'à l'origine, c'est retour du droit commun plus argent de la politique de la ville. C'était compris, démerdez-vous avec le financement politique de la ville, le droit commun n'intervient plus. Ou, accessoirement, mais pas à la hauteur où le droit commun, c'est en ce sens où on s'est un peu senti piégé. Mais pas que de ça. Hein. C'est-à-dire que cet argent politique, c'est pour ça qu'on entend beaucoup à la télé, mais regardez ce qu'on fait pour la rue, regardez ce qu'on fait pour la reconstruction, regardez ce qu'on fait pour la politique de la ville. Mais la politique de la ville, l'argent n'était là que pour venir combler les manques du droit commun. Et c'est toujours pas le cas. Donc, 35, juste après, je termine sur la question des conseils citoyens. Il devait y en avoir, après, je dirais, quand on dit, on pensait que les conseils citoyens n'existaient plus, il devait y avoir 35. Au début, la ville de Marseille, après avoir beaucoup traîné les pieds, a dit, on va créer 9 conseils citoyens. 9. On s'est battu en préfecture pour qu'il y ait un quartier en plus, je ne sais pas lequel, 9 plus 1. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours les mêmes quartiers prioritaires, mais il y a plusieurs conseils citoyens qui interviennent sur l'ensemble de ces quartiers.
Nous n'avons pas encore entendu Youssef, alors nous allons revenir tout à l'heure avec Pierre. Donc, pour savoir un peu quel conseil citoyen à laquelle tu es rattaché et depuis quand es-tu sur ce conseil citoyen ?
Oui, alors moi j'ai entendu il y a une dizaine d'années quand ils ont été créés effectivement ces conseils citoyens, mais ils ont été créés sans grande visibilité, sans moyens, et donc... voilà, et du coup on n'en a plus trop entendu parler, mis à part l'effet d'annonce. Et moi j'ai redécouvert, à la faveur de problématiques de locataires dans mon secteur, dans le 15-16, eh bien qu'il y avait effectivement ces conseils citoyens qui avaient du mal à exister pleinement, à jouer leur rôle, mais qu'il y avait quand même quelques citoyens qui étaient là et qui essayaient de maintenir cet outil, de le porter, de le faire découvrir et de mobiliser autour de cet outil qui avait été mis en place. Et donc, je me suis retrouvé intégré au conseil citoyen à partir de ma petite association de locataires dans le 16e arrondissement. Et j'ai découvert dans le même temps les difficultés, la perversité d'une situation où et créer en même temps les conditions d'une participation citoyenne sur le plan législatif, sur le plan, et puis toujours en se battant, hein, de Caragri, et puis en même temps sur l'impossibilité qui joue pleinement leur rôle pour faire remonter cette expertise d'usage, cette expertise des habitants eux-mêmes qui avait été bien comprise, cernée et même légiférée, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une situation on est un petit peu au milieu du guet, c'est-à-dire que on a franchi un pas important alors que les gens dans les quartiers n'ont pas attendu cette loi pour se mobiliser, comme tu le rappelais, Pierre, hein, puisqu'il y avait le collectif du Grand Saint-Barthélemy. Mais avec cette loi, c'était une forme d'institutionnalisation, une forme de formalisation et de choses obligatoires. Alors, les élus ont toujours tendance à vouloir éviter ce genre de choses. Hein. Ils décident toujours mieux tout seuls, sans qu'on les embête, sans qu'on vienne contrarier leur vue, leur projet. Mais voilà. Donc, on en est aujourd'hui au point où ces outils existent. Ils ont besoin, et c'est la réflexion qui est menée à l'heure actuelle à l'intérieur de ces conseils citoyens et au sein de leur fédération, on va en reparler puisqu'il y a une fédération qui les regroupe aujourd'hui, surtout Marseille. On est en train de revoir ce, comme tu le disais, 10 conseils citoyens pour 35 UPV, alors qu'il était prévu qu'il y en ait un par UPV, c'est un peu juste. Donc, il y a une réflexion pour dire, il faudrait plus de conseils citoyens. Il faudrait donner des moyens qu'ils soient connus pour que les gens connaissent cet outil. Et puis, il faudrait qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Voilà. Et moi, je suis dans cette dynamique-là, dans le 15-16, avec mon conseil citoyen, à essayer de faire vivre.
Je pense qu'il n'est pas trop tard de définir ce que c'est un conseil citoyen, comment sont choisis les membres, comment ça fonctionne, quels sont les terrains sur lesquels ils peuvent agir.
Je pensais effectivement que c'est une bonne question, mais nous allons faire une respiration musicale et après aborder cela. Donc voilà, allez, alors, merci.
Hey, à part apaiser, faire peu de choses. Peut-être détailler, vendre ma dope. Faire ma promo sur le boulevard. Et faire mourir d'overdose. J'traîne en blog et j'fume ma conso. J'suis pas la vitrine. J'crache la fumée en forme de clétole. J'ai rêve d'être anarchiste. J'traîne ma carcasse sur le trottoir. Dans le soir, dans le noir. Chante, tu racontes mon histoire d'un enfant perdu dans le square. La danse en ghetto, et elle résonne dans les halls. Des grandes vélocités de toi, la mélodie des quartiers pauvres. Où les pères marquent sur plus leur roue. Où les mères élèvent seul leur roue. Je vis cette mélodie. Ah. Ouais. Hey. La chance n'existe que chez les autres. Seul le travail pêche chez les nôtres. Non, pas il est difficile de voir la vérité qui se cache en haut. La mélodie des quartiers pauvres me suit quand je monte au casse-pipe. Pour m'en sortir, je dois faire des lots. Maintenant, je veux vivre, plus survivre au cours. Mais semblant d'y croire. Oh yeah. Mes frères d'armes sont mes frères de sang. La vie sont présents. La voix sort du ghetto. Et elle résonne dans les eaux. Des grandes vélocités dans toi. Où les verres et la salle comme une ruine à pas de moi. La mélodie des quartiers pauvres. Je vis cette mélodie.
Pendant que Jean-Marc a bien respiré, on revient à ma question. Peut-être une définition de ce qu'est un conseil citoyen, de qui il est composé, qui choisit les membres et sur quel type de problématique il peut travailler.
Bon, la loi, ce qu'elle dit, c'est que les conseils citoyens, ils sont constitués de deux collèges, à la fois des habitants du quartier prioritaire, et puis aussi des associations et des collectifs qui sont déjà constitués, d'ailleurs donc des parties, des structures, et puis des habitants. Le collège des habitants, il a été inscrit qu'il devait être constitué par tirage au sort. Ça veut dire qu'en fait, c'est la préfecture qui opère un tirage au sort au niveau des habitants de la zone et qui désigne les membres du collège d'habitants. Et puis, il y a les associations, bien sûr, qui existent sur place. Hein, on ne va pas les tirer au sort, mais il y a un certain nombre d'associations qui participent à ce conseil citoyen. Voilà. Et bien sûr, les premières années, il y a un certain nombre d'habitants qui sont retrouvés tirés au sort, mais qui ne comprenaient pas ni l'enjeu ou qui n'étaient pas... Et donc, rapidement, la partie collège d'habitants, elle n'a pas forcément tenu très longtemps. Mais moi, ce que je constate depuis que je suis là il y a 2 ans, c'est que malgré tout, il demeure dans ces différents conseils citoyens qui méritent d'être ressourcés en personne et redéveloppés. Et moi, j'ai rencontré des citoyens qui connaissaient un certain nombre de choses, de la loi, de la réglementation, et qui, à certains moments, eh bien, dans leur contact avec les préfectures, avec la métropole, avec la mairie, eh bien, étaient capables de rappeler la loi, de rappeler le cadre, ou de donner un certain nombre de suggestions, d'avis et d'opinions, et que, malgré tout, eh bien, sur un certain nombre de dossiers, moi, j'ai vu l'impact. J'ai vu qu'on pouvait trouver en face, eh bien, parfois, une oreille attentive, dire « Ah oui, mais c'est vrai, sur cette partie-là, on doit vous consulter. » Et effectivement, ce que vous dites, c'est pas complètement insensé. Et donc, moi, ce que j'ai découvert ces 2 dernières années, c'est que, faute d'un fonctionnement optimal de ces conseils citoyens, il y a quand même des citoyens au sein de ces différents conseils qui agissent, qui connaissent et qui agissent dans le sens de l'intérêt général et presque dans le sens qui était voulu au départ par cette loi. Alors aujourd'hui, moi, je pourrais donner l'impression de tenir un discours un petit peu optimiste, un peu positif, mais j'ai envie de me dire bon, c'est pas parfait, mais il y a des bonnes volontés, il y a des ressources et il faut se baser sur cette loi qui vient d'être rappelée en novembre 2024. Il y a des décrets qui sont parus et qui ont rappelé que pour tout ce qui concerne la politique de la ville, la rénovation urbaine, la participation citoyenne doit s'organiser autour de ces conseils citoyens. Donc on est venu réaffirmer, alors qu'il y a eu une période peut-être un peu ambiguë, on est venu réaffirmer que ben ouais, ben c'était pas une mauvaise idée ces conseils citoyens, mais en plus bon, voilà, on confirme qu'effectivement les citoyens doivent participer et c'est à travers ces instances. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à voir comment on les rend plus efficaces, comment on fait en sorte que les institutions, les élus, nous voient de plus en plus et de mieux en mieux comme des partenaires dans la politique de la ville.
Est-ce qu'on peut avoir aussi un éclaircissement sur comment se sont définis les territoires ? Parce que vous avez dit qu'il y avait quasiment la moitié des conseils citoyens par rapport aux territoires concernés au départ. Comment ça s'est défini, ces territoires, en fait ?
Oui. Alors, ces territoires...
Par exemple, à Marseille...
Oui, bien entendu, on n'a pas eu notre mot à dire, pas plus les citoyens que les associations. C'est sorti des bureaux de la préfecture et de la ville et de la ville de Marseille. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, au début, je te disais qu'ils en avaient sorti 9. On a dit, bon, je ne sais plus pourquoi on a dit... Parce que nous, on s'est battus dès les premières conférences de presse. Nous, on dit, on en veut 35, hein. Donc 9, après 9 plus 10, mais on n'a pas eu notre mot à dire, c'est sorti c'est comme le découpage électoral ou des machins comme ça, c'est sorti des bureaux de la préfecture et de la ville qui copilotent la politique de la ville. En ce moment, ce n'est plus la ville, mais la métropole. Hein. C'est métropole, et etc. Donc, comment s'est constitué ces conseils citoyens, comme tu l'as rappelé tout à l'heure? Pas pour le collège des associations, mais pour le collège d'habitants, c'était tirer les habitants au sort.
Sur une liste électorale, sur quoi ?
Tirer les habitants au sort. Alors, je me rappelle, pour avoir vu, je vais donner des noms que tu connais, c'était la préfète Lajus, c'était Marc Lasserre, c'était... mon ami Patrick Gallus, c'était, etc., etc., des personnes avec qui on a travaillé, c'était Arlette Fautus. Donc, puisque j'étais porte-parole du collectif du Grand Saint-Barthélemy, j'ai dit à madame, j'avais dit à madame Fautus et à la préfète Lajus, je vous amène clé en main un conseil citoyen, déjà en état de marche.
Et je me rappelle, on avait travaillé même ensemble sur la représentation.
Je vous amène clé en main un conseil citoyen, il y a des habitants, il y a des associations, etc. La préfecture, et pourtant Dieu sait si on avait de bons rapports, c'est pas comme les derniers préfets, de bons rapports, surtout avec Marie Lajus, elle a, et Arlette Fautus a dit non, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est amener un souffle nouveau. Alors, je ne sais pas quel souffle nouveau il voulait amener. Elle m'a textuellement dit, elle m'a textuellement dit que votre collectif, il fonctionne déjà. Ce sont des gens qui ont l'habitude de fonctionner ensemble. Ce sont des militants qui se connaissent. Nous, ce qu'on veut, c'est amener un souffle nouveau dans ces conseils citoyens. Ils ont amené tellement de souffle nouveau qu'ils ont asphyxié ces conseils citoyens. Alors, au début, ils s'interrogent. Il dit, voilà, il faut qu'on choisisse des citoyens qui n'ont pas l'habitude de ce fonctionnement, d'agir en militant, d'agir machin, il faut du sang nouveau. Merde, sang nouveau, je te disais qu'il nous avait coupé les ailes. Et l'interrogation au niveau de la préfecture, c'est de dire, mais comment on va choisir ces habitants-là? Alors, au tout début, ils ont dit, la question est simple. Comme si pour les technocrates, les questions étaient simples. La question est simple, on va les tirer au sort sur les listes électorales. Alors tu mettais, ça n'a duré qu'un feu, puisqu'on était monté au créneau, ça n'a duré qu'un moment, parce que tu mettais tous ceux qui n'avaient pas le droit de vote, c'est-à-dire tous les étrangers qui vivent dans les quartiers, etc., qui n'ont pas le droit de vote et pourtant qui font fonctionner le quartier, qui utilisent le quartier, etc., qui y travaillent, bref. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits sur l'électoral. Tu n'es pas obligé d'être inscrit sur l'électoral. Et pourtant, tu vis le quartier. Donc, ça a été rapidement. Je me rappelle, alors, ils avaient fait un semblant de tirage au sort. Après, ils voulaient tirer au sort sur les listes EDF. Enfin, des conneries comme ça, quoi. On va voir sur les listes EDF si on peut trouver.
Et ensuite, je me rappelle bien, pour donner bonne conscience, ils avaient coopté certaines personnes.
Après, parce que comme ça n'a pas marché. Alors, je me rappelle de la première réunion, c'était au CMCI, rue Barbusse en bas. Première réunion, donc on réunit les premiers tirés au sort. Il y en avait d'ici, les premiers tirés au sort. Sur le Grand Saint-Barthélemy, on s'est retrouvés à quatre, quatre personnes. L'ensemble de Marseille avait 10 personnes tirées au sort, des personnes qui ne savaient pas pourquoi on les avait convoquées. Il y a un vieux qui pensait, un vieux qui était plus jeune que moi maintenant, un vieux qui pensait qu'on était venu lui parler de sa retraite ou des machins comme ça. Un autre pensait qu'on était venu lui proposer du travail, il pensait que c'était l'annexe de l'AIPE. Personne ne savait parce que, bien entendu, aucune info n'avait bien été faite, machin. Donc, comme on a vu que ça ne prenait pas, la préfecture ne voulait pas, toujours pas de notre collectif, ils ont dit, on va commencer avec ceux qui y sont. Et puis, on va coopter, vous pouvez coopter, etc. Au début, quand on faisait nos premières réunions, tout comme quand on faisait nos réunions ici, ou à l'Agora, ou à la maison des familles, au Merlan, il y avait beaucoup de monde. Le Merlan était presque rempli. Il y avait un vent nouveau en disant, tiens, les citoyens vont être consultés, des machins comme ça, on va pouvoir donner notre avis sur les projets. On avait commencé à faire venir des experts pour ce qui est devenu la plaine des loisirs maintenant. Et petit à petit, les gens se sont démotivés. Ils voyaient soit dans leur structure initiale, qu'ils avançaient plus, soit dans leur association de locataires. Je pense à mon ami, comment il s'appelle ?
Sid.
Voilà, quand je pense à ça, et quand on parle de nos aventures, je pense à mon ami Sid, toute une série de personnes. Donc ensuite, les habitants, les associations qui avaient l'habitude de monter ensemble ici se retrouvent dans le groupe de veille. On a l'habitude de fonctionner, ça tourne. Et petit à petit, ces conseils citoyens ont été vidés de leur substance par la volonté du politique. Et je disais que ce conseil citoyen, sur le texte de loi, faisait peur aux élus. Mais je vous rappelle que le Conseil citoyen a une voix consultative. Qu'est-ce que ça aurait été si le Conseil citoyen avait une voix décisionnaire ? Délibérative, décisionnaire. Cette instance fait peur aux politiques avec une voix consultative. Je me souviens, une fois, c'était en Copil, en comité de pilotage. J'avais dit, moi, conseil citoyen, parce que bon, jusqu'à dernière, je suis toujours conseil citoyen, j'avais osé, c'était sur un truc de la rue, qui concernait nos quartiers ici, j'avais même pas voté contre, avis consultatif, j'avais même pas voté contre, tous les portes de Paris étaient descendues, j'ai dit, moi, au nom du conseil citoyen, je m'abstiens. Mais après, je vote contre. Je dis, je m'abstiens parce qu'on n'a pas été consulté, parce que vous nous montez des projets, etc., etc. Je m'abstiens. Ça a fait tout un why, etc. On m'avait téléphoné en disant, comment tu oses aller contre le machin? Donc, ils voudraient des conseils citoyens qui disent oui au projet qu'on leur propose, et c'est ce qui se passe. Oui opposé au projet qu'on leur propose, machin. Donc, on a vidé ces conseils citoyens de leur substance. Moi, en tout cas. J'ai continué à agir en tant que conseil citoyen avec quelques camarades, en étant seul. Par moments, je venais au groupe de veille, etc., conseil citoyen. Et en disant, tu as le droit d'interpellation du préfet, tout ça. Je te prie de croire que j'ai vu tous les préfets, tous les ministres, tous ceux qui sont passés là-dessus pour faire remonter les choses qu'on pouvait faire remonter ou des trucs comme ça. Ils n'en veulent pas. Je voudrais avoir, mais parce qu'il est jeune et c'est Youssef qui nous rebooste, en disant que maintenant il faut reprendre les choses à bras le corps, machin, on est dans la politique de la ville, étape numéro 2. Si on ne réagit pas, ça sera exactement la même chose que ce qui a été fait précédemment. C'est-à-dire que si les conseils citoyens ne disent pas, et c'est pour ça qu'on a créé la FEDE, mais on verra après. Les conseils citoyens ne disent pas, donnez-nous les moyens de, premièrement, de créer ces conseils citoyens avec les forces vives des quartiers, forces vives, et qui se choisissent entre elles. Et c'est normal que des personnes qui ont bossé pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans disent, eh bien, si on nous structure et si on nous donne des moyens d'agir, eh bien, il faut qu'on agisse. Je ne vois pas comment, à condition qu'il y ait cette structuration-là, le groupe de veille ne pourrait pas y adhérer. Parce qu'il y aurait des moyens, il y aurait une structure et il y aurait la force de la loi en disant la force d'interpellation directe, des trucs comme ça. Mais si on n'arrive pas à poser ce rapport de force, on n'y arrivera pas. Je te dis, pour un avis consultatif, c'est le why. Vous savez à quel moment, on a été écouté plusieurs fois sur le Grand Saint-Barthélemy, mais tu t'en souviens. À quel moment on a été écouté ? Puisque je parlais de mon ami Cid, je parlais de Karima, je parlais des amis du groupe de veille, etc., de certains militants, c'est quand on a bloqué...
Le chantier ?
Pas le chantier, le rond-point. On a bloqué le rond-point à considérer que c'était jeudi, parce que ça emmerde, hein, bloquer la route, des machins, ça fait des que quoi. On a bloqué deux ou trois jours, peut-être même pas. On a été reçu le lundi par trois préfets. Trois préfets. Mais ça n'a pas donné grand-chose, tu vas me dire. Mais trois préfets se sont déplacés. C'était le préfet de région. C'était le préfet à l'égalité des chances. C'était Rousset, le préfet de région, je ne me souviens plus de son nom. Et c'était M. Nunez. qui était préfet de police à Marseille, et que vous voyez à la télé de temps en temps. Parce qu'on a... Non, mais je termine, parce que c'est notre titre de gloire. Être reçu par trois préfets. Trois préfets se déplacent en disant, mais qu'est-ce que vous avez ? Alors, on avait fait remonter les revendications. Je me rappelle de Karima, bon, je suis trop bavard, Karima qui avait ouvert, parce qu'on lui avait donné comme consigne, c'est toi qui prends la parole la première. Elle était venue avec toute une liste de revendications, en disant, bon, si nos revendications ne sont pas écoutées, entendues, nous, on s'en va de suite. Alors le préfet, bien entendu, on lui a tendu la perche, le préfet a dit, mais vous pouvez partir, évidemment. En disant, ben, c'est rigolo.
Oui, est-ce que justement, ce n'est pas ce qu'appréhendent aussi les politiques, que vous puissiez représenter cette force aussi, et que vous pouvez être représentatif de certains habitants, de certaines revendications. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien sûr, mais c'est toujours plus confortable pour les politiques de qu'ils puissent agir un peu à leur guise, hein, et en fonction d'intérêts divers qui rejoignent pas toujours, on le constate, l'intérêt général et l'intérêt des quartiers. Et bien, donc, Pierre a dit le rapport de force, oui, il faut être là, il faut être présent, il faut s'opposer, il faut être dans la contradiction, et il faut lutter. Il faut lutter, et il faut lutter à la fois pour que on puisse reconstituer, non pas avec des règles abracadabrantes les conseils citoyens, mais avec des règles qui soient dans le réel, c'est-à-dire avec des gens qui connaissent le quartier, qui sont capables de se mobiliser, qu'un certain nombre de gens qui sont connus des habitants et qui peuvent tout à fait, au sein d'un conseil citoyen, répercuter la parole et les intérêts de ces habitants dans cette zone-là. Il y a aussi la question des moyens, et c'est vrai. Ces conseils citoyens, c'est des conseils de bénévoles. S'il n'y a pas de moyens en termes de locaux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyens du tout à l'heure actuelle, mais ils sont trop faibles pour permettre vraiment que ces conseils citoyens puissent fonctionner dans de bonnes conditions avec des bénévoles et avec des règles encore qui ne sont pas adaptées pour leur constitution. Et moi, je voudrais dire juste une petite expérience positive sur ces conseils citoyens. Moi, ces deux dernières années, ce que j'ai observé sur un point particulier, la TFPB. Alors, j'explique rapidement aux auditeurs, sinon on va dire on repart dans notre jargon. La plupart des bailleurs sociaux, ils sont exonérés de payer une taxe, hein, mais à condition de réinvestir cet argent dans l'intérêt des habitants et par rapport à des besoins qui ne correspondent pas aux besoins que le bailleur doit déjà à l'habitant et au locataire. Hein. Ça, il doit les assurer, le bailleur, sans compter sur quelque budget que ce soit, autre que son budget propre. Mais donc, il y a une taxe dont il est exonéré, l'État l'exonère, il n'a pas à la payer, mais il doit être à l'écoute de ses habitants et la mettre en œuvre. Eh bien, les conseils citoyens, ces dernières années, ils ont pu imposer leur présence dans des tables rondes sur la TFPB pour confronter un petit peu ce qu'ont pu faire les différents bailleurs avec cet argent, et en présence de la préfecture, et parfois taper sur les doigts des bailleurs, et donc se voir les bailleurs recevoir des critiques sur l'affectation de sommes de cette taxe-là dans des endroits qui... Voilà, donc... Il y a des petites choses qui sont faites, c'est pas assez, on peut faire beaucoup plus à condition qu'on se mette, on remette les choses à l'endroit. C'est-à-dire que si on veut de la contradiction, on veut quelque chose qui vient amener une expertise d'usage à tous ces experts, ces politiques, ces institutions, etc., eh bien, il faut le faire complètement. Il ne faut pas voter une loi et puis ensuite se retrouver dans la situation dans laquelle on est obligé de se battre, d'aller chercher... et d'informer. Et je terminerai surtout par ça, parce que, excusez-moi si parfois mes réponses sont trop longues, mais aujourd'hui, parler de l'existence des conseils citoyens, ben c'est déjà qu'il y ait une information large sur l'existence de cet outil, qu'il y ait une information large qui permette aux habitants comme aux associations de savoir que quelles que soient leurs implications et le travail extraordinaire qu'ils font dans leur environnement, et ben à un moment donné, il y a aussi cette instance qui est directement celle qui est en capacité d'interpeller la préfecture, la métropole, la mairie, sur des questions de rénovation urbaine, sur des questions de politique de la ville. Et là aussi, peut-être qu'il faudrait un budget et il faudrait mettre l'État face à ces contradictions, la mairie, la métropole, et de dire que vous avez le devoir, vous, d'informer sur les conseils citoyens. Vous avez le devoir de le faire et le devoir de faire en sorte qu'on puisse fonctionner correctement.
Justement, sur cette question, parce que tout ce que vous dites là, ça se passe à huis clos dans des lieux fermés. Est-ce que vous, en tant qu'association ou membre du Conseil citoyen, aviez un minimum de levier pour informer la population. Et est-ce que les médias étaient sensibles à votre discours ?
Non. L'information sur les conseils citoyens était aussi prévue par la loi LAMI. La loi LAMI devait donner tous les moyens logistiques, structures, locaux, justement, et y compris, on a fait des pieds et des mains pour avoir, j'allais presque pas dire, un adulte au relais qui aurait pu faire ce travail d'information et de lien dans les associations qu'on n'a jamais eu. On a demandé un adulte au relais. Alors, sur moyen d'information, j'en viens avec la création de la FEDE. Il n'y aurait jamais eu de création de la Fédération des conseils citoyens si les conseils citoyens avaient fonctionné normalement. C'est-à-dire chacun dans son quartier, chacun dans son territoire, on fait remonter nos besoins, etc. Mais déjà à mi-parcours, on était à Martigues. Et en plus, c'est moi qui prends la parole pour présenter au préfet en disant « Bon, maintenant, les conseils citoyens sont démunis de tout. Ils interpellent, mais tout le monde n'a pas la volonté, la force d'interpeller, etc. » Moi, j'étais presque tout le temps en préfecture. Bon, j'avais pas de problème. Donc, on a dit « On va fédérer ces conseils citoyens dans cette fédération pour au moins que la fédération ait des moyens logistiques. » Pour pouvoir faire ce que tu disais, les campagnes d'information et surtout des campagnes de recrutement des conseils citoyens, parce que chaque conseil citoyen ayant été vidé de sa substance, n'ayant pas de moyens, ayant d'autres choses à faire, ceux qui restaient là étaient en voie de disparition, je disais, c'est pas eux qui allaient informer. Donc, un des objectifs de la FEDE, c'est déformé de la manière dont la loi a été, pas modifiée, prolongée, complétée, et faire le travail qui est demandé, d'information. Mais les habitants, ça va. Les galères, ils en connaissent. Les difficultés, ils en connaissent. Le quotidien, ils connaissent comment agir. Comment veux-tu qu'ils viennent s'investir dans une structure, même appelée conseil citoyen, si on ne sait pas si ceux qui vont travailler, ceux qui vont dire, qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est la parole. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Ils préfèrent aller au groupe de veille, et ils ont tout à fait raison, avec des trucs tout à fait ciblés, si l'école ne fonctionne pas, s'il manque d'estit, si les problèmes de santé sont toujours prégnants, eh bien on fait un coup de force et on va directement bloquer l'école et c'est terminé. On n'a pas besoin de se réunir tous les vendredis soirs, que sais-je, au sein d'une obscure instance où les choses n'avancent pas. Donc moi, je sais qu'au nom du Conseil citoyen, on a fait avancer des choses. Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on a fait avancer. On a fait avancer des petites choses parce qu'il y avait des rapports directs. Mais je vous assure que on n'a jamais rien fait avancer sur la L2. Pourtant, les gens sont restés dans le bruit, la poussière. Oui, c'était par rapport à la L2 qu'on avait. Oui, les gens sont restés dans le bruit, la guerre, les chantiers. On leur a dit, ne nous foutez pas une circulation là. Maintenant, toute la merde de la circulation et de la pollution retombe sur les quartiers nord.
Hein. Oui, et la cheminée aussi.
La cheminée de la Benosse, tout ça. Bon, arrêtons, voilà. Donc, je vous assure qu'en 10 ans de conseil citoyen, on n'a pas fait avancer quoi que ce soit.
Oui, non cette remarque elle est importante parce que en fait, il y a des associations et des habitants dans les quartiers, heureusement, qui n'ont pas attendu les conseils citoyens pour se mobiliser, pour trouver les moyens de se faire entendre. Alors, parfois avec plus ou moins d'efficacité. Et d'ailleurs, les conseils citoyens, ils n'ont pas vocation à remplacer toute cette dynamique, tout ce dynamisme qui existe dans les quartiers et qui continuera, je l'espère. Mais par contre, il est important de noter que À partir du moment où ce conseil citoyen, il est celui qui peut interpeller et qui est en contact avec la préfecture, la ville, la métropole, et que ces différentes institutions ne peuvent pas éviter d'informer et d'inviter le conseil citoyen, eh bien, je crois qu'il est bon que tous les habitants et toutes les associations le sachent. Parce qu'à un moment ou à un autre, quand ils n'arrivent plus à entrer en contact avec la préfecture ou avec la métropole sur un sujet, eh bien, il y a le conseil citoyen et c'est inévitable, ils y parviendront. Et je voudrais dire aussi autre chose par rapport à la fédération. C'est vrai, Pierre, hein, cette fédération, elle s'est imposée à nous parce que isolés, dans cette situation, on ne serait pas allé très loin. Mais qu'est-ce qu'elle a permis aussi, outre ce que tu viens de rappeler, elle a permis aussi de reposer le découpage des conseils citoyens. Là, moi, je vois le conseil citoyen du 15-16. Alors, en plus, il y a Ouest et Est. Moi, si je prends la partie Ouest, ça part de la solidarité jusqu'à l'Estac. Est-ce que vous pensez que est-ce que c'est une zone où quand on la parcourt, on traverse tout à fait les mêmes problématiques et donc, il fallait redécouper. Et il y a un redécoupage qui a été proposé. Il semblerait qu'il soit plus ou moins adopté avec un plus grand nombre de conseils citoyens, pas le nombre idéal, mais un plus grand nombre déjà que ce qu'on est aujourd'hui 10. Donc, au sein de cette fédération, malgré tout, ça a été une étape qui a permis de conjuguer les efforts et d'arriver à poser certaines questions. Voilà. Mais bien sûr, les conseils citoyens ne sont pas là pour remplacer tout ce qu'il y a de vivant déjà et qui lutte et qui fait avancer les choses dans les quartiers. Mais à un moment donné, ça va être un outil, à mon avis, incontournable et dont tout le monde devrait pouvoir se saisir à n'importe quel moment, sans renoncer à sa propre implication associative.
Anne-Marie, voudrais-tu ajouter quelque chose parce que nous arrivons presque au terme d'entretien que nous avons avec nos invités.
Oui,
vas-y.
Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Pierre, c'est que encore une fois, mais le groupe de veille n'échappe pas à ça, c'est que les logiques de représentation, elles se substituent pas à l'action. C'est-à-dire que le rapport de force, on sait que c'est pas la réunion régulière de la structure qui y est reconnue. D'ailleurs, tout le danger de reconnaissance, moi, je le mesure sans arrêt. C'est-à-dire que tu as un ministre qui vient ici, qui on appelle, le groupe de veille pour organiser la rencontre, etc. Et après, tu as une entreprise de récupération en termes de communication par la ministre pour s'approprier toutes les actions qui ont lieu sur le territoire et exit la mobilisation des habitants et des acteurs locaux. Et donc, je pense que la première des choses, c'est de continuer à maintenir ces mobilisations sur et à le faire communiquer auprès des habitants et que finalement la représentation, que ce soit dans le groupe de veille ou dans le conseil citoyen, n'en sont qu'un un aboutissement, j'allais dire. Parce que si tu n'as pas cette mobilisation derrière, est-ce que les conseils citoyens sur les territoires où tu as peu de mobilisation, il y en a quand même à Marseille, ils ont un pouvoir, ils ont une possibilité, tu vois, sauf d'être la caution des institutions.
Oui, alors voilà. C'est assez hétérogène, hein, pour d'accord. Moi qui connais un peu l'ensemble des conseils citoyens. Les conseils citoyens, parce qu'il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, oui. Il y a eu ces drames-là, sont beaucoup plus. Mais eux, ils sont arrivés un peu après et ils sont venus avec leur collectif. Ouais, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire, ce que nous avions comme idée de faire au tout début, ils ont investi avec l'ensemble du collectif, les conseils citoyens.
Ok.
Alors. En guise de conclusion, quel serait votre mot de la fin quasiment et quelles seraient les possibilités pour certaines structures ou particuliers qui souhaiteraient aussi apporter leur force vive, aussi apporter leur concours? Comment les choses peuvent-elles se passer selon vous? Alors, et les coordonnées peut-être aussi de la fédération si possible.
Oui, alors pour moi, ça sera assez rare, mais il faut que je raconte une petite anecdote avec mon ami Darmanin.
Mon ami qui?
Oui, non, mais tu as bien entendu. Alors, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, nous, on va tâcher, quand je dis nous, c'est la Fédé. Maintenant, je ne suis investi essentiellement dans la Fédé. C'est la Fédé, ce que disait Saïd, c'est à nous de faire connaître sur les territoires, sur ce qui deviendront les futurs conseils citoyens, et c'est de convaincre de l'intérêt de s'inscrire dans cette dynamique-là, et on verra bien. Pourquoi est-ce que je parle de Darmanin? Alors, je ne sais plus à quelle date. Darmanin, ça sera mon mot de la fin. Darmanin était venu faire une visite à Marseille, et bon, j'étais là, et il a fait le fort, Il a fait dire par son chef de cabinet un peu la veille, le ministre attend des questions franches, que les habitants s'expriment sans tabou devant le ministre. Lui, il aime la bagarre, tout ça. Et donc j'avais pris la parole en disant au ministre, les habitants n'attendent rien des visites ministérielles. Donc il était déjà venu, j'ai dit vous venez chaque fois, il en avait déjà fait 30 ou 40, Darmanin, des visites ministérielles. Les habitants des 35 quartiers prioritaires, tu vois, j'avais déjà dit tout ça, que je représente, n'attendent rien des visites ministérielles. Balance d'emblée un homme au premier rang. Bon, cet homme-là, on reconnaît le chauve qui est ici, de dos. Les ministres viennent, s'en vont et les galères restent. Le droit commun n'existe plus dans ces quartiers. Moi, je viens de la marche de 83, où j'aime bien me faire mousser avec mon ami Saïd. Et que s'est-il passé en 40 ans pour qu'on parle maintenant de communautarisme? Oui, c'était l'histoire du communautarisme, des machins, etc. Le ministre me répond, il dit, eh bien moi je suis né en 82 et j'ai plutôt envie de vous demander ce que vous avez fait, vous. Il s'adresse à moi. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, si tu dis que tu viens, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Alors je lui ai répondu, ça n'a pas été repris là, j'espère que c'est une plaisanterie. Mm-hmm. Parce que je n'ai jamais été élu ou quoi que ce soit, je n'ai jamais été aux responsabilités. Pourquoi tu me renvoies, moi, alors que j'interroge aux politiques, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Depuis, je crois que j'ai été sur une liste noire, un peu obscure, je ne sais où, à tel point que le président ne m'a pas reçu en tant que conseil citoyen à la Busserine, etc. Malgré ce que j'ai rappelé au préfet Carrier que le conseil citoyen... Mais ils avaient peur parce que je suis incontrôlable. Si je dis à Darmanin ça, je leur ai dit, mais j'ai vu que le président avait fait une sélection et qu'il avait, etc., etc. Et depuis, j'avais fait mien le mot de dire que je ne veux plus être le joueur, mot d'Aimé Césaire, je ne veux plus être le joueur au carnaval des autres. Et depuis la visite du président Macron, je ne suis plus investi et je ne veux plus m'investir en tant que conseil citoyen. Je reste à la Fédé. Parce que oui, je ne veux pas être le joué. Je veux dire, ça fait 10 ans que je joue, c'est bon. Je reste à la Fédé parce que je pense qu'il y a des choses à faire, surtout pour l'expérience, pour raconter des belles anecdotes, mais surtout pour mettre la dynamique en place.
Alors, Youssef, ton mot de fin, de conclusion pour cette première invitation.
Oui, c'est vrai que c'est sur la dernière question, on se pose la question de comment on fait en sorte qu'on a besoin des citoyens, on a besoin des habitants de ces quartiers pour réussir ce défi de la réussite des conseils citoyens, parce que c'est dans l'intérêt de ces quartiers prioritaires. Et donc, on a besoin de ces habitants. Alors, qui nous cherche dans les différentes zones? Il y en a une dizaine à l'heure actuelle, peut-être demain un peu plus, qui se renseignent. Ils finiront par nous trouver et petit à petit, ils trouveront, comme moi, hein, à partir de mon association de locataires, comment j'ai pu trouver aussi ma place dans un conseil citoyen. Et puis, l'intérêt qu'il peut y avoir à être à un moment donné en contact avec les différentes institutions. Alors, ces différentes institutions, c'est vrai, elles ne nous accueillent pas toujours à bras ouverts. Elles peuvent parfois essayer de nous éviter. Mais il y a parfois aussi, parmi ces fonctionnaires, parmi ces élus, et moi je veux peut-être terminer par... Oui, mais bon... Mais quand il y a une bonne écoute, il y a une bonne transmission aussi, à l'arrivée, ça peut changer un petit peu les choses. Il demeure encore parfois des élus, et c'est ça en quoi je veux croire, et c'est un peu mon message, qui sont encore un petit peu attentifs et qui font avancer des choses pas assez par rapport au retard considérable qu'ont pris ces quartiers, hein, quand on parle du droit commun, pas assez vite. Mais bon, il y a encore quelques oreilles, et donc ça vaut le coup. Donc renseignez-vous sur les conseils citoyens, n'hésitez pas à venir vous impliquer. Si vous êtes déjà impliqué dans votre quartier, c'est tant mieux. C'est un plus, le Conseil citoyen.
Et comment vous contactez ? Alors, je reviens à la question posée aussi.
Eh ben dans, voilà. Alors, soit il faut contacter directement la fédération, celle qu'a surnommée à plusieurs reprises la Fédé, comme si c'était déjà quelque chose de très connu, la Fédération des Conseils citoyens. Il y a un mail. Sinon, dans chaque arrondissement, couple d'arrondissement, il y a forcément un conseil citoyen. Là, on avait quelqu'un du Conseil citoyen 13-14, qui est maintenant à la fédération. Il y a le conseil citoyen du 15-16, 11-12, enfin. Il faut vous renseigner dans vos zones. Très souvent, dans les centres sociaux, ils ont les coordonnées d'un membre ou des réunions de ces conseils. Donc, allez à la pêche à l'information. On a le droit d'être informé, on a le devoir aussi de s'informer.
Oui, juste, je demanderai au niveau de la FEDE de faire une diffusion la plus large possible de l'info.
Ça pourrait faciliter les choses. Donc, merci encore pour votre accueil. Hein.
Mais nous, ce que nous retenons, c'est que les conseils citoyens existent toujours, n'ont pas totalement disparu, puisqu'on ne les voit plus lorsqu'il y a les appels à projets, n'est-ce pas ? Voilà, donc nous prenons bonne note.
J'étais à tous les appels à projets, sauf depuis que Macron est venu ici.
Bon, ben merci. Musique, puis après nous aborderons les communiqués. Non, mais nous avons besoin d'Anne-Marie pour qu'elle puisse parler un peu des communiqués, d'informations concernant un groupe de veille. Nous profitons de sa présence.
Donc nous disons au revoir.
Toi le voyageur, toi l'étranger, assieds-moi les bons. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assieds-moi les bons. Toi qui as parcouru un si long chemin, assieds-moi les bons. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assieds-moi les bons. Assalamu alaikum, aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, merbebik, fais-nous cet honneur. Cette tente, c'est ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre, en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalamu alaikum. Vaste est le désert, si courte notre ville, on se croit maître de l'univers. Et si on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière. Regarde le ciel et contemple, mon ami, la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir. Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaire ou nomade, on fait tout ce que passer. Marcher ou courir sur place, chacun sa vérité. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalamu alaikum. Ce pays où les maisons montent jusqu'au ciel. Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil? Est-il vrai que vous travaillez dur jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger? Et pour protéger vos murs, sortez les barbelés. Les mirages n'existent pas que dans le désert.
D'ailleurs, ce 88.4, les échos du Grand Saint-Barthélemy, nous arrivons au terme de l'émission. Nous allons profiter de la présence d'Anne-Marie pour qu'elle puisse nous faire part des dernières nouvelles concernant les luttes menées par le groupe de veille. Mais en attendant, je vous propose d'écouter un peu le travail qui est fait, qui est porté par la communauté en partenariat avec l'association Macaya, ainsi que les centres sociaux des Flamineries et de Saint-Barthélemy, anciennement MFA. Cette action centrée autour du projet Story met le rap au service du développement personnel. Elle vise à renforcer la confiance en soi des enfants et des adolescents, tout en éveillant leur goût pour la lecture, l'écriture et l'expression orale. Merci Sidi pour écouter un peu ce travail qui est fait avec ces enfants du comité des adolescents du Centre social Flamand Iris.
Villa Marseille, ça bouille, ça tourne comme un plat. Avec mes potes, on fait de la fête comme d'hab. Autre assassin à l'heure vers le bonheur. Hey, hey, c'est Alia dans la place. On danse sous les étoiles. On laisse pas passer nos grèves. Ma vie est un son. On joue à fond avec mes potes. On s'envoie direction l'horizon. Les nuits sont longues, mais les rires résonnent. On roule en voiture, la musique qui tourne, les souvenirs défilent. Comme un film, on accélère chaque instant qu'on vit. On le déguste, hey, et c'est à l'aide dans la place. On danse sous les étoiles, on laisse pas passer nos rêves. Ma vie est un son, on joue à fond avec mes potes. On s'en va direct sans l'horizon. Dédicace à Inès, dédicace à Camilla, dédicace à Sabrina, dédicace à Leïna, dédicace à Maïdis, dédicace à Selena, dédicace aux deux Aïcha, dédicace à Kati, dédicace à Kaylee, dédicace à Yousra, 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 Yousra.
Karma qui tomba sur Anissa. Elle voulait adopter un chat qui tomba sur ses bras. Puis elle prit un chocolat Milka. Un chocolat Milka, un chocolat Milka. Elle était ado mais accro au tableau avec des carreaux. Elle était dure comme un mur, mais aussi très mature comme dans son futur. Comme dans son futur, comme dans son futur. Mature, mature, 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 comme dans son futur.
Je suis fatiguée, j'ai mal au bras. Je vais m'allonger dans mes draps. Manger une tablette de chocolat. En caressant mon chat Milka. Je veux voir tout le monde heureux. En faisant une balade à deux. S'aider à se relever. Et apprendre à s'aimer.
S'aider à se relever.
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 Apprendre à s'aimer.
S'aider à se relever,
apprendre à s'aimer,
s'aider à se relever,
apprendre à s'aimer,
s'aider à se relever,
apprendre à s'aimer,
s'aider à se relever.
Merci Sidi. Alors Anne-Marie, nous allons reprendre. Tu viens juste de sortir d'une réunion du groupe de veille à laquelle nous n'avons pas pu participer étant mobilisés ici. Alors quelles sont les dernières nouvelles du groupe de veille?
Alors les dernières nouvelles, ben, une des actualités importantes, c'est celle de la situation actuelle par rapport à l'ouverture de la crèche de dite crèche de l'œuf, qui va être rebaptisée les Poussins du Grand Saint-Barth. La crèche de l'œuf, elle est, c'est un lieu emblématique sur notre territoire. Il sait, Pierre, de quoi je parle, parce qu'on a, on avait fait partie, je crois, à l'époque, des personnes qui s'étaient mobilisées avec Alain Fourest sur l'ouverture d'un lieu d'accueil pour des familles qui étaient dans des projets d'insertion. Et cette crèche, elle s'est développée. Elle a été gérée en dernier lieu par une structure qui s'appelle les Apprentis d'Auteuil, avec lesquels on se rappelait avec Karima qu'on avait soutenu leur candidature parce qu'on considérait que c'était une des structures qui pouvait maintenir cette dynamique sociale sur le territoire. Ben, ça n'a pas été le cas. Et les Apprentis d'Auteuil sont restés dans un contexte un peu de bunker. Et quand ils ont quitté la crèche de l'œuf, ils ont prétexté des problèmes d'insécurité sans travailler du tout avec les partenaires du territoire. Et la crèche a été fermée en 2018. Et depuis, on s'est battu. Alors pour le coup, si c'est une action qui a été soutenu, impulsé, on a harcelé les institutions. On a eu quand même l'appui sur cette question-là des différents préfets à l'égalité des chances, qui ont réuni autour de la table l'ensemble des partenaires et qui ont évité que cette crèche, elle ferme en catimini sans que personne se mobilise. Ça n'a pas été gagné au départ, puisque le département et la PMI n'étaient pas favorables. Et je pense qu'on a su l'explication ensuite, c'est-à-dire que les apprentis d'Auteuil avaient quand même négocié leur relocalisation ailleurs, un agrément ailleurs sur Corot. Et ce qu'ils ont eu, d'ailleurs, et du coup, ça devenait contradictoire avec le maintien de cette crèche. Donc, nous avons participé à toute la démarche concernant la réouverture, et en particulier l'audition de toutes les structures qui avaient présenté un projet pour gérer la crèche. Et on a retenu, quand Zion, c'était une commission d'audition dans laquelle il y avait la déléguée du préfet, la personne de la métropole et de la ville, et quatre membres du groupe de veille, qui ont auditionné, lu tous les dossiers déposés par les cinq structures qui ont répondu à l'appel à projet. Et on a retenu Léo Lagrange, donc, qui en fait devient le nouveau gestionnaire. Et c'est pareil, on continue à harceler un peu tout le monde pour s'assurer que les travaux soient faits dans les bonnes conditions et aussi dans le timing, dans le calendrier, etc. Donc là, officiellement, la crèche va rouvrir en septembre avec le double de lits de ce qui existait au départ, et le double de berceaux, comme ils disent, et avec des travaux qui ont permis de refaire complètement à l'intérieur, sur les deux étages, les locaux, et des travaux aussi autour de meilleure visualisation de la crèche, mais aussi d'éviter que ça soit présenté comme un bunker, quoi, avec... Donc ça, on a rencontré aujourd'hui en groupe de veille la responsable petite enfance de Léo Lagrange, qui est en lien avec nous depuis un petit moment, et avec qui on a mis en place un travail de partenariat important, de façon... Alors pour eux, ça correspond à une dynamique qu'ils considèrent comme étant indispensable, de ne pas être coupé de tous les acteurs associatifs, et de pouvoir avoir des repères chaque fois qu'il y a un problème qui peut se poser avec des familles, mais qu'il y a aussi des ressources existantes sur le quartier. Donc, ils ont pris des contacts là avec plusieurs structures pour pouvoir avoir des relais. Ils ont proposé qu'il y ait un travail qui se fasse aussi avec des personnes du troisième âge, puisqu'ils vont accueillir, ils proposent d'avoir des personnes âgées qui soient des seniors, qui soient accueillis pour faire des travaux d'atelier avec les enfants, etc. Voilà. Donc, on est sur une bonne dynamique, on va la maintenir. Et on va certainement, avec la nouvelle directrice et cette responsable, faire un tour du quartier ensemble pour qu'elle se familiarise avec ce qu'elle dit. Voilà. Donc pour nous, on fera certainement, avant l'ouverture officielle, qui à mon avis va faire l'objet d'une communication politique et institutionnelle, le groupe de veille va certainement faire une conférence de presse tout seul pour faire valoir le travail qui a été mis en œuvre depuis plusieurs années pour l'ouverture de cette crèche. Ça, c'est la première chose. Le deuxième dossier qui nous tient à cœur, ça vous le savez aussi, c'est le mail, copropriété extrêmement dégradée, sur lequel plan de sauvegarde, dans lequel il y a des rencontres qui se passent au niveau institutionnel, mais qui en même temps, les habitants disaient aujourd'hui au groupe de veille, ne pas voir les choses avancer. C'est-à-dire, malgré du fric qui est mis dans les travaux de réfection des ascenseurs, il y a toujours un ascenseur sur deux dans certains bâtiments qui est en panne, l'extérieur qui est... toujours aussi sale. Et donc, il y a un souhait aussi là, de communiquer sur l'état dans lequel vivent les habitants. Il y a la question du bâtiment A, qui est toujours un bâtiment livré à lui-même, avec énormément de squats. Voilà, on sait qu'il y a aujourd'hui, de la part d'institutions politiques, et notamment la ville a soutenu un projet, alors excusez-moi parce que je ne me familiarise pas avec ce terme, hors code, qui est un dispositif qui permet... d'intégrer certaines copropriétés, donc la Morelette en fait partie, le Mail aussi, les Rosiers et Calisté, je crois, et dans lequel l'État, du coup, a la possibilité, enfin, du coup, se donne le droit de préempter les appartements en lieu et place des propriétaires et de pouvoir, du coup, y faire des travaux et améliorer le cadre de vie. Donc, on sait que, par contre, c'est une procédure qui sont longues. Il faut d'abord le voter, mais en plus, après, la mise en œuvre n'est jamais simple. C'est le deuxième dossier. Et puis après, ce sur quoi on est attentif en permanence, c'est sur l'état sur le quartier, la question une habitante parlait aujourd'hui de certains lieux sur le quartier qui deviennent des lieux de recrutement de jeunes filles qui sont à la rue et qui s'impliquent dans les réseaux et qui en même temps avec des risques de prostitution, etc. Voilà. Donc c'est des phénomènes qui existent aujourd'hui. Voilà, on se tient régulièrement au courant. Moi, c'est vrai que je ferai un retour là par rapport au Conseil citoyen pour qu'on voit comment éventuellement on peut aussi s'y inscrire et voilà. Mais voilà, on a régulièrement des informations sur les événements qui se passent aussi sur le quartier, les initiatives, etc. Je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à aller voir l'exposition sur fond vert.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Qui est à la Maison des Familles. J'ai été hier à l'inauguration de l'expo, qui me fait grandement penser à celle qui a été travaillée ici, sur le Grand Saint-Barth. Et du coup, hier, le souhait de tous les acteurs était de se dire, pourquoi pas faire un grand événement sur un lieu qui maintenant nous relie un peu, c'est-à-dire la Plaine des Loisirs, en extérieur, un événement avec les deux expos et tous les acteurs qui ont participé à ça. Enfin, voilà. Oui.
Système D et Vostok, voilà, qui ont confectionné cela. Ils ont diffusé à cette occasion aussi le film, le documentaire film. Qu'ils ont réalisé sur les grands ensembles de fonds.
Je trouve que l'expo, elle est pas mal, et en même temps, comme pour le comité, ils s'inscrivent dans une logique qui est de continuité. Ils disent l'expo, elle n'est pas terminée, elle va continuer avec d'autres panneaux, d'autres... Voilà.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'expo, c'est dans une grande salle de centre social de Saint-Barthélemy, et qu'il faut téléphoner pour pouvoir réserver, qu'il y a les différentes activités menées par le centre social aussi. Donc, effectivement, c'est une expo à voir. Alors, il y a les trois centres sociaux que les concernants sont en train de grande concertation. Ils devront se rencontrer pour essayer d'organiser l'été au Grand Saint-Barthélemy, n'est-ce pas? Donc, nous vous communiquerons les différentes informations relatives à cette concertation et quelles sont les actions qui seront proposées à ce moment-là. C'est toujours important de mutualiser, surtout dans ce contexte, tant les moyens que humains que matériels, au regard de la situation du contexte socio-économique d'aujourd'hui. Et donc, c'est d'autant plus
utile. On interpelle aussi régulièrement les instances, et en particulier la PEDEC, sur la question du maintien des financements aux associations et des postes d'adultes relais, parce qu'il y a eu des promesses faites de la part de la ministre quand elle est venue. Mais c'est vrai qu'ici, si on a aussi cette richesse, c'est grâce à cette existence depuis de nombreuses années d'acteurs associatifs, et qu'il ne s'agirait pas de laisser passer des baisses de financement.
Tout à fait, le comité sait quelque chose. Ouais. Donc, concernant nos amis de l'espace culturel Bessorine, il y a différentes propositions de projets, notamment compte tenu de contexte. C'est toujours intéressant de participer à des actions culturelles, à des activités culturelles. Par exemple, le 14 mai 2025, il y a Yass Presque Imparfait, c'est une comédie festival d'humour à l'espace culturel Bessorine, rue Maboubitir, à partir de 20h. Donc, vous pouvez réserver au 04 13 94 85 00. Toujours le 14, mais à 14h40, un spectacle de Lolo Sinclair qui est gratuit, La folle aventure de l'effet Aria, toujours à l'espace culturel Bessorine. Autre activité, autre action, ce festival d'humour, toujours le 15 mai, le lendemain, Impossible, un one-man show, mais à deux, Seb et Jeff, qui vous proposent ce spectacle d'humour. Donc c'est le 15 mai 2025 à partir de 20h. Donc il y a différentes actions. Donc c'est dommage qu'au niveau de CB, il n'y a pas plus d'habitants qui se déplacent pour voir un peu ce qui est proposé, malheureusement. Alors nous allons terminer avec une note, un communiqué qui n'est pas très, qui est plutôt inquiétant à mon sens. Ce sont nos amis de Transit Librairie qui ont fait paraître sur les réseaux sociaux ou à la presse un communiqué inquiétant daté du 12 avril 2025. Donc nous allons vous en livrer une lecture. Alors le communiqué, à deux reprises en une semaine, le trottoir devant la librairie Transit était recouvert d'inscriptions en hébreu ayant pour traduction « Israël vivra », expression revendiquée par des mouvements sionistes. Une première fois le 4 avril, puis le 12 avril, nous découvrons de nouveau les mêmes inscriptions. Nous condamnons ce genre d'agissement. La librairie Transit est connue pour son fond décolonial et la présentation régulière de livres sur cette thématique, y compris sur la Palestine. Ces inscriptions ayant été taguées sur l'espace public, la librairie est intervenue une première fois auprès des services de la mairie pour que le trottoir soit nettoyé, mais cette demande est restée sans réponse car n'ont pas daigné intervenir. Nous renouvelons cette demande de nettoyage de l'espace public. La librairie Transit revendique la ligne éditoriale qu'elle poursuit depuis sa création. Donc Transit Librairie, vous pouvez toujours aller les rencontrer et apporter aussi votre soutien. Et cette librairie se retrouve au 51 boulevard de la Libération. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire en guise de conclusion? Que dans ce contexte incertain quant à ce que nous réserve demain, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements pour le soutien apporté par la politique de la ville. Néanmoins, même si nous verrons peu, nous n'avons pas de boule de cristal pour demain de quoi sera fait. Mais c'est l'État, la métropole, le département, voire aujourd'hui la mairie aussi, puisqu'elle participe, mais aussi la NCT aussi qui soutient l'activité que nous menons avec les enfants et les adolescents dans le cadre du projet Stories, c'est-à-dire le projet sur le rap. Alors, merci beaucoup à nos invités. Youssef et Pierre, ainsi qu'Anne-Marie. Lorsque nous sollicitons Anne-Marie, elle répond toujours présent, ce qui nous intéresse. Et nous n'oublions pas, bien sûr, Sidi et Daniel. Merci, merci beaucoup, les amis. Et à la fois prochaine. Allez, bye bye. Au revoir.